Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Elle, il ou yel, comme on dit pour désigner les personnes non binaires, ont désormais un acronyme bien implanté dans la langue courante, comme disent les linguistes. TDS pour travailleuse ou travailleur du sexe. L'abréviation leur confère sérieux, reconnaissance, respect, professionnalisme. Elles, ils ou yelles ont aussi maintenant un festival, le SNAP, un festival entièrement dédié aux représentations, discours et enjeux liés au travail du sexe. Il a eu lieu les 2, 3 et 4 novembre à Paris. Il y a eu des projections, des débats, des soirées, des performances, des tables rondes avec des artistes, des expertes et des experts, etc. Les TDS ont exposé, comme l'explique le site, leur vision, leur œuvre, leur pensée critique et ont confronté leurs expériences de terrain. Il y a eu un atelier pute et féminisme, une discussion sur les conditions de travail dans la pornographie, la projection de plusieurs documentaires, dont Yes We Fuck, qui aborde la sexualité chez les personnes à diversité fonctionnelle, autrement dit celles et ceux que certains appellent handicapés. Une place de choix a été réservée à un débat sur les conséquences jugées désastreuses de la loi du 13 mars 2016 pénalisant l'achat de services sexuels. Mais on n'a pas trouvé en revanche d'atelier pour accompagner le moment de la révélation, du coming out de son activité à ses parents ou à ses proches. Comment le dire, que dire quand on est TDS et qu'on l'assume? Comment faire accepter ce qu'on accepte soi-même? Comment surmonter le rejet si c'est le cas? Il y a sûrement autant de façons que de TDS. Alors pour répondre à cette question, pour donner en tout cas des éléments de réponse, nous sommes allés voir deux d'entre elles, Mira et Mia, qui ont respectivement 21 et 30 ans. Elles vivent à Montpellier et en Normandie. Elles racontent aujourd'hui leur coming out. « Maman, papa, je suis travailleuse du sexe », deux récits recueillis par Inès Léraud et Anne-Sophie Lepicard.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Mira, j'ai 20 ans. Je suis originaire de Montpellier, donc dans le sud de la France, anciennement parisienne. On a été élevés, moi et ma sœur, par ma mère qui est d'origine algérienne et mon père qui est kabyle. Et on a eu une éducation athée, à la campagne, manger bio, etc., cultiver le jardin. On avait quand même beaucoup une éducation de l'imaginaire, je dirais, par ma mère, voilà, qui était conteuse, bibliothécaire. Donc elle nous a beaucoup enrichis de ce côté, je pense, plus que mon père. Je faisais déjà très femme depuis mes 12 ans, donc je fais déjà femme mature, 1m80, voilà, des formes, voilà. Donc ça m'a un peu poussée dans la falaise un peu plus trop tôt, peut-être. Donc. Alors j'étais en banlieue parisienne chez ma maman, et puis... Il y a un livreur de pizza qui m'a proposé dans la rue de me dédommager pour des services sexuels parce qu'il me trouvait très charmante. Voilà, donc ça m'a donné l'idée. Je ne l'ai pas forcément fait avec lui.
T'avais quel âge ?
J'avais 16 ans. Et j'ai envoyé des messages sur le site J'ai trouvé. Des sites d'annonces différentes, tu peux acheter une voiture ou... acheter une cage à lapin ou avoir des services tarifés avec des filles. J'ai menti sur mon âge déjà, j'ai mis que j'avais 18 ans parce que j'en faisais largement 20. Et j'ai mis quelques photos que j'avais prises avec ma petite webcam. J'ai écrit une annonce assez explicite parce que j'avais déjà des rapports avec mon copain qui étaient assez extrêmes, je dirais. C'était des jeux de domination, la gorge profonde, des trucs assez extrêmes. Du coup, j'avais l'habitude de me retrouver dans des situations dans le cadre sexuel assez intense. Et donc, je me disais qu'avec des jeunes plus âgés, ça pouvait être que différent. Ou pas, mais j'avais quand même envie d'essayer. Et j'ai été surprise à quel point mes clients demandaient de la douceur et des choses... Vraiment très simple, en fait, pour une génération comme la mienne qui a grandi avec du porno, etc., et qui a vachement été confrontée à des images explicites et à une sexualité totalement différente qu'il y a 30 ans. Voilà. Le premier, du coup, c'était un avocat, je crois. J'ai oublié beaucoup de choses de lui, à part la station de métro où je le retrouvais, mais... J'étais un peu bête, donc je demandais pas grand-chose à cette époque. J'avais demandé 150 euros, donc pour à peu près une heure. Voilà. C'était gagner mon indépendance vis-à-vis de ma mère, qui gagnait pas forcément très bien sa vie, donc elle avait quelques soucis financiers. Du coup, j'avais pas tout ce que je voulais. Évidemment, quand on est jeune, on a envie d'avoir tout ce qu'on veut, et c'était une façon de me libérer vis-à-vis d'elle. D'une certaine manière, oui. Donc, arrivée au lycée, j'ai abandonné en seconde. Et là, ma mère a décidé de me mettre à la rue pour de nombreuses histoires. Un copain avec lequel ça allait pas du tout parce qu'on se tapait sur la gueule et elle avait porté plainte contre lui. Ça l'a irrité que je retourne le voir, de me voir toujours avec lui alors qu'il y avait une plainte qui était portée contre lui. Je pense que ça a joué sur le fait qu'elle ait plus voulu de moi dans sa maison. J'ai du coup contacté un de mes amis qui avait eu la chance d'avoir une aide éducative et donc il avait un appartement donc dans le 11e arrondissement. Et lui, il n'y vivait pas vraiment. Donc du coup, il avait accepté de me laisser cet appartement gratuitement. Donc du coup, j'ai commencé vraiment mon business dans son appart, à faire deux ou trois rendez-vous par jour. Économiser des billets sur des vinyles, dans des bouquins. Je planquais des billets partout à cette époque. J'aimais bien ce sentiment de frisson avant les rendez-vous. Cette angoisse, cette boule au ventre, comme qui ressemble un peu au stress. Et ça m'excitait plus qu'en fait d'être au rendez-vous et dans l'instant précis devant un mec qui avait 4 ou 5 fois mon âge. Après, j'en tirais quand même pas mal de choses positives. L'argent, déjà. Le contact avec des personnes qui étaient plus âgées, donc qui pouvaient me parler de leur sexualité, de leurs problèmes de couple, dans des relations dans lesquelles ils se perdaient un peu, ou ils s'oubliaient. Et j'avais un peu l'impression d'être leur bouée de sauvetage, même si c'est lourd au bout d'un moment, enfin maintenant. Mais bon... Alors j'ai été en contact avec mon père jusqu'à ce que j'arrive dans l'appart de mon pote. Et il se posait vraiment des questions sur comment je vivais. Je l'ai laissé mariner, disons, pendant 2 ans là-dessus, jusqu'au jour où c'était ma première année à Montpellier. Je me souviens, je repartais de la plage et j'ai eu envie de lui dire, parce qu'il y avait un truc qui allait pas, c'est que je pouvais être heureuse totalement. Mais pas sans être honnête et franche sur la façon dont je vivais avec mes parents. Même si je savais que ça pouvait être très dur pour lui de comprendre, parce qu'il avait grandi dans un pays quand même qui est l'Algérie, un pays pas facile, où quand même il était militant à l'époque. Il avait même fait avorter des femmes dans des universités. Il était vraiment... impliqué, il était voire communiste. Et à la mort de son père, il a fait un retournement vers la religion, vers l'islam, vers les traditions. Et du coup, les choix de sa fille n'étaient plus en phase avec sa façon de penser, tout simplement. Et le jour où je lui ai dit, au téléphone, je lui ai annoncé, « Bon, papa, je dois t'avouer quelque chose, c'est que je travaille, mais c'est un travail un peu spécial, je suis courtisane. » Et c'est comme ça que je lui ai dit avec ce mot-là. Et puis il a eu un mais c'est... Hein ? Voilà, je voyais sa tête au téléphone. C'était incroyable. Et du coup, il m'a annoncé qu'il ne souhaitait pas que j'assiste à son enterrement et qu'il me reniait de sa vie et que c'était pas un métier, que je le déshonorais. Je l'ai appelé une fois depuis et ça a été la conversation la plus rapide que j'ai eue de ma vie au téléphone avec quelqu'un, je crois. Ça va ? Oui. Et toi ? Bon, tant mieux. Au revoir. Alors, ma mère, qui est quelqu'un de très intelligente, c'est compliqué quand même pour qu'elle l'accepte. Elle l'accepte pas elle-même. Un jour, peut-être, elle comprendra que ses filles évoluent, parce qu'elle accepte de toute façon pas nos choix en général. Donc, ni à ma sœur, ni à moi, le fait que ma sœur soit végane, elle l'accepte pas non plus. Et moi, que je sois travailleuse du sexe, encore moins. Donc, bon, c'est... Donc, elle est en froid un peu avec ses deux filles. Mais, bon... C'est moi qui vais tout le temps lui en parler, en fait. Je vais toujours vers elle pour lui parler de mon boulot, parce que j'ai envie de lui en parler avec elle. Mais d'un sens, je devrais me taire, des fois, je le sais très bien, parce que ça lui fait du mal, en fait, d'avoir des images en tête de sa fille qui voilà, fait l'amour avec des hommes de l'âge de son nouveau mari. Ou... Ça peut être dur pour elle.
Elle réagit comment exactement? Tu te souviens de quelques tentatives de discussion?
Ah bah, la dernière, c'était hier soir. On était en train de manger dans notre jardin, on avait fait un barbecue et je devais partir le soir, une heure après, parce que j'avais un rendez-vous avec un de mes clients qui habitait dans la ville juste à côté et qui était intéressé par du fétichisme des pieds et de la domination. Et du coup, elle m'a dit « Mais tu vas sortir à cette heure-ci, en plus t'as un peu la crève, tu devrais rester à la maison. » Et je lui ai dit « Mais maman, je vais pas cracher sur 200 euros pour du fétichisme des pieds. » Et mon beau-père a rigolé. Et ma mère s'est mise la tête dans les mains et elle a fait « Mais qu'est-ce que je vais faire de toi ?» Voilà. J'ai rigolé aussi, mais je savais pas si j'avais le droit de rigoler. J'ai regardé ma mère, mais je savais pas trop qu'elle avait à l'intérieur d'elle, quoi. Des fois, on a envie d'ouvrir, de creuser dans la tête des gens qu'on aime pour savoir ce qu'ils pensent mais de nous, de ce qu'on fait, mais... Je pense que j'aimerais qu'elle le comprenne, évidemment, que je fais ce métier par plaisir aussi. Je jouis à quasiment tous mes clients. Quand je lui parle de mon travail, elle me dit « arrête tes conneries ». Donc ça en dit long sur sa façon de voir le travail du sexe, mais après je la comprends, elle n'a pas été éduquée dans l'optique que ça puisse exister, même ce genre de choses, surtout pour sa fille. J'aimerais l'ouvrir, ouais, sur ça, parce que je suis sûre qu'elle en est capable, en plus. Parce qu'elle s'intéresse à plein de choses, enfin, elle vit plein de choses, elle a fait le tour du monde, quasiment. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui est capable de comprendre ses choix, enfin, ce genre de choix, même pour le véganisme, au final. Hein. Je sais pas si ça se vaut, mais... voilà. Après, j'aimerais me spécialiser quand même dans l'accompagnement pour des personnes en situation de handicap, c'est ce qui m'intéresserait. Parce que je fais déjà énormément de personnes qui ont des difficultés, donc soit des personnes aveugles ou malentendantes ou des handicaps physiques, voilà. Après, je continuerai toujours à m'occuper des petits vieux, etc. Enfin, après, c'est vrai que je discrimine un peu les jeunes dans mon métier. Parce que j'estime qu'ils ont qu'à se bouger les fesses et aller draguer, et voilà, et qu'ils sont pas encore mariés, ils ont pas encore la chaîne autour du pied, donc voilà. Ils ont toutes les possibilités devant eux, c'est dommage. Puis après, si j'arrive à trouver ma voie dans l'accompagnement pour personnes handicapées, bah, je pense que c'est vers là que je m'orienterai, voilà. Mais toujours avec une partie sexuelle, je trouve que c'est indispensable. Je trouve qu'il y a une part d'amour et d'empathie envers l'autre. Qu'il faut être vraiment quelqu'un de pur, ouais, un peu, enfin, pur. Une sorte de pureté indescriptible pour pouvoir faire l'amour et s'offrir à des gens et leur montrer qu'ils sont aimés, et malgré leur physique, malgré tout ce qu'ils peuvent être, malgré tous leurs problèmes, malgré... voilà.
Transculture, les pieds sur terre.
Moi, c'est Mia.
Vous avez quel âge ?
J'ai 30 ans. Je suis travailleuse du sexe depuis 5 ans. J'étais vraiment à la dèche financièrement. Donc, il fallait que je trouve un petit boulot en parallèle à mes études. J'ai fait modèle de nu aux Beaux-Arts, mais ça ne gagne pas énormément non plus. Et puis, j'ai toujours eu une sexualité assez importante. J'adore faire l'amour, je m'habille souvent très sexy, je suis épanouie. Donc je m'étais dit, bah pourquoi pas essayer. Voilà. En fait, c'était au début de Tinder. Donc c'est l'application qui vous géolocalise et qui vous dit quels sont les potentiels plans cul aux alentours. Donc quand on est un peu en manque un soir, on ouvre l'application, puis on en choisit un, on se rend compte, on tire un coup et puis au revoir. Et une fois, en fait... Bah, c'est ce qui s'est passé, et j'ai dormi chez lui, et le lendemain, j'ai eu ni croissant, ni thé, ni café, ni merci, ni oh, quelle belle nuit, ni... Et là, j'avais trouvé ça super irrespectueux, et je m'étais dit, bah, je crois que je préfère avoir quelques centaines d'euros dans la poche, plutôt que ça, quoi. Après, du coup, j'ai terminé mes études, j'ai fait quelques saisons d'hiver et j'ai trouvé une opportunité d'aller travailler à Londres, à la base dans le cadre d'un stage. Et après, mon employeur m'a embauchée. Et du coup, il y a un truc super en Angleterre, un site qui s'appelle Adult Work, où on crée son profil. Donc déjà, c'est super compliqué de rentrer dans le site. Les clients ont des profils avec des commentaires, un peu comme les sites de covoiturage et tout. Ils ont des commentaires des escortes sur eux, et ben, ils mettent des commentaires sur nous. Et moi, en fait, il y a un mec qui est tombé sur mon profil, qui a vu que j'avais zéro client, vu que j'en avais jamais fait, je venais de m'inscrire, et lui, il en avait 121. Donc j'ai lu tout, ça avait l'air d'être un mec sympa, galant, courtois, voilà, il s'appelait Peter. Et du coup, lui, c'était mon premier client. Et on est allé dans un sauna libertin, en plein centre de Londres. Alors déjà, j'ai halluciné. C'était un endroit où tu peux bronzer à poil en plein centre de Londres avec aucun vis-à-vis. Donc c'est des trucs super rares. Et donc il m'a mis à l'aise, il a acheté du prosecco, on s'est mis bien. Et puis bah après, on est allé dans... Il y a des petites salles où tu peux aller... Tu fermes à clé. T'as un bouton d'urgence en cas de problème. Donc t'as le patron qui arrive en moins de 5 minutes s'il t'appuie sur le bouton. C'est assez sécurisé. Donc tout ça, il m'a vraiment montré... Il m'a vraiment mis dans le bain, quoi. Bah après, du coup, ça s'est enchaîné assez vite, quoi. J'allais dans les hôtels, des beaux hôtels, j'allais dans des super apparts. Je pense que c'était peut-être 3000, 4000 livres le mois, le loyer, tellement c'était somptueux. C'était vraiment une expérience un peu pretty woman, j'ai envie de dire. Mais... Premier salaire d'escorte, j'allais chez Harrods et je claquais tout dans des nuisettes en soie à 600 livres, des choses que jamais j'aurais pu me payer. Mais je me suis toujours interdit de vivre que de ça. Moi, j'ai un autre emploi en parallèle. Par principe personnel, j'ai pas envie d'être dépendante de cette activité. J'ai pas envie d'avoir à sucer des bites pour faire mes courses, en gros. Si j'ai envie d'arrêter 2 mois, je veux pouvoir soit avoir mon chômage, soit mon salaire normal. C'est un peu des facettes de ma personnalité, quoi. Maintenant, je suis escorte aussi, donc je suis arrivée au fait de vouloir en parler à mes proches tout naturellement. En fait, j'avais pas envie de rester dans l'ombre, pas envie de garder ça pour moi. J'ai quitté l'Angleterre, je suis revenue en France pour me rapprocher un peu de ma famille qui me manquait, mes potes. Et du coup, j'en ai parlé à ma mère directement à mon retour de Londres. On discutait et c'est une des choses que je lui ai dit, ah oui, au fait... J'ai commencé à faire des rendez-vous avec des hommes. Donc là, elle m'a dit, mais comment ça, tu couches? J'ai dit, bah oui. Elle m'a dit, ah bon, mais t'as pas peur qu'il t'arrive quelque chose? J'ai dit, bah non, je gère, t'inquiète pas. C'est un site qui est super, sur lequel je mets mes annonces, on a des commentaires. On en met sur les clients aussi, on sait où on va, on n'est pas dans des hôtels miteux, on n'est pas dans la rue, dans les fonds de rues sombres, comme tu pourrais t'imaginer, c'est super propre, c'est protégé, bien sûr, parce qu'elle pensait directement aux maladies sexuellement transmissibles. J'ai dû aborder le sujet, pour moi, assez naturellement, parce que je savais que ça allait passer. On s'est passé, mais sur le coup, elle était un peu choquée. En fait, on a toujours eu des discussions assez ouvertes sur le sexe. La sexualité, la contraception, plein d'autres trucs. On a une parole assez libérée, contrairement à celle qu'elle avait avec ses parents. Donc je me suis pas mis la pression en disant « Ouais, bon, bah je vais lui annoncer, je sais pas comment elle va le prendre. » En fait, je savais déjà que... Elle allait pas m'engueuler ou elle allait pas me dire « mais t'es folle, t'es inconsciente, ça va pas la tête. » Je savais que ça allait bien se passer.
Bonjour.
Vas-y, rentre.
Je suis bien chez Mia.
Oui.
Tu peux venir manger ce soir si tu veux.
Peut-être.
Voilà. Ça s'est passé en plusieurs étapes. Parce qu'avec Mia, on se met pas autour d'une table pour discuter. On balance des choses comme ça. Et puis après, on réatterrit. Et puis on se relance des choses. Voilà, on avance comme ça. Et je me souviens, à l'époque, elle était à Londres, de son côté. Et elle est venue à la maison. Et à ce moment-là, elle m'a dit, j'ai rencontré quelqu'un qui est marié. Bon, déjà, on change un peu de registre. C'est pas le petit copain, le boyfriend, quoi. Voilà, on sort ensemble, j'ai des relations avec lui. Et je crois qu'après, alors c'était pas au même moment, mais c'était peut-être, je sais pas, une demi-heure après, en faisant quelque chose, où elle m'a dit, je vais avec des hommes. Bon. et j'ai des relations. Je crois que tu m'as dit, j'ai des relations. Il m'invite au restaurant. Enfin bon, t'as un peu emballé le truc, quoi. Et sur le coup, je me suis dit, elle est en perdition, elle est pas bien. Elle est déprimée, ça va pas, quoi. Pourquoi elle fait ça, quoi. Et je t'ai fait part de mes inquiétudes, disant, je sais pas, tu peux tomber aussi sur quelqu'un de mal intentionné. Enfin bon, comment je peux te protéger aussi, quoi. Tu m'as rassurée, tu m'as dit, mais non, je vais pas avec n'importe qui, je gère. Comme tu me dis souvent, je gère.
Ça, en fait, même dans mon discours, même avec mes amis, quand ils me disent que c'est dangereux, je leur dis « oui, mais c'est autant dangereux de choper un mec dans un bar un soir qui t'emmène chez lui, il peut très bien t'égorger aussi, quoi. C'est pas parce qu'il est client de la prostitution que c'est un dégénéré mental. Étant une fille qui aime bien sortir et se taper des gars, il peut très bien y avoir un mec qui t'attache et qui te bute, quoi. Enfin, voilà. » C'est ça que j'essaie de faire comprendre aussi à ma mère, c'est que de par le fait que j'aime le sexe et que je me tape des gars, il y a quand même des risques de tomber sur un taré. Peu importe que je fasse ce métier ou pas.
Il me semble que je t'ai envoyé un message après où je disais, quand t'as un rendez-vous, dis-moi où c'est, enfin... Parce que j'étais inquiète, quoi. Et c'est là que tu m'as expliqué que c'est pas non plus fait n'importe comment, quoi. C'est organisé, c'est choisi, c'est décidé, enfin voilà. Et tu m'as même dit aussi que des fois, tu donnais ton adresse à une autre amie par sécurité. C'est pas évident quand même, quoi. Plusieurs fois, t'es venue à la maison, tu viens boire un café ou un thé, puis tu me dis « j'ai un rendez-vous dans 10 minutes bon, ». Donc elle y va, et elle revient, elle est égale à elle-même, voilà. Faut l'accepter, quoi. Enfin, c'est pas...
Qu'est-ce que vous trouvez difficile à accepter?
J'ai pas trop envie de rentrer dans cette intimité-là non plus, quoi. Je sais ce qu'elle fait, je l'accepte. Mais j'ai pas plus envie que ça de savoir ce qui se passe, quoi. Parce que c'est quand même ma fille. Je lui fais confiance, enfin, je sais qu'elle gère, je sais que... Puis elle me paraît bien, bien là-dedans. C'est peut-être un... c'est difficile de... peut-être à comprendre, mais depuis qu'elle fait ça, je trouve qu'elle a pris une maturité, oui. Qu'elle n'avait pas avant. t'as eu des déceptions sentimentales et t'as pas été très bien toujours. Et finalement, dans ce rôle-là, je te sens beaucoup plus mature, quoi. Donc je suis contente qu'elle ne soit pas en souffrance et qu'elle choisisse sa vie. Et je trouve que la façon dont ça se passe, je trouve que c'est des relations qui sont quelque part beaucoup plus correctes, parce que c'est un peu un contrat entre deux personnes. Ça peut être du plaisir, ça peut être des sorties, ça peut être... voilà, c'est quelque chose qui est voulu par les deux, même si ça reste caché, qui est clair, quoi.
Et vous, dans votre propre relation aux hommes, mmh. est-ce que ça a pu faire évoluer votre point de vue ?
Bon, le père de ma fille n'a pas voulu la reconnaître, donc très vite, je me suis retrouvée toute seule. Voilà. Mais de toute façon, même avant qu'elle fasse ça, je me suis dit que j'aurais pu faire différemment avec les hommes. Parce que c'est vrai que j'ai eu une vie où j'étais assez soumise. J'ai peut-être accepté des situations que j'aurais pas dû accepter. J'aurais dû être plus libre. Je sais pas combien il me reste de temps à vivre, mais je veux aussi maintenant être plus moi-même. Parce que je me dis que c'est possible. C'est possible d'être libre. C'est possible de décider. C'est possible de choisir. C'est possible d'avoir du plaisir. Et quand je vois ce qu'elle vit, ça m'aide aussi.
C'était Les Pieds sur Terre, quartier d'été avec papa, maman, je suis travailleuse du sexe. Un reportage proposé par Inès Léraud et Anne-Sophie Lepicard, réalisé par Clémence Grosse avec un coup de main de Cécile Lafont et diffusé pour la première fois en novembre 2018. Je l'avais inséré dans une petite série modestement intitulée Changer le monde. Merci à Pécha, à Fanny, à Mia et à Mira, ainsi qu'à Camille Richir et à Sarah Jerry.